Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité. AAU.
Charlotte Goffet, chercheuse en design, anime une matinée consacrée à son travail sur le vent.
Alors juste deux mots pour présenter Charlotte qui est là, qui va en fait se présenter bien mieux que ce que je peux le faire évidemment. Donc Charlotte en fait nous écrit il y a environ un an au Cresson en disant qu'elle s'intéresse à ce qu'on fait dans le cadre de Sensibilia et nous présente un petit peu le type de travail qu'elle fait. Donc je vais vous donner quelques balises, simplement quelques repères de son travail. Donc Charlotte est designer, chercheur de l'ESAD, de l'École d'art de design de Saint-Étienne. Comme le titre l'annonce, c'est ce qu'on va faire aussi ce matin, elle travaille sur l'air et le vent. Elle conçoit des objets, dont en particulier une assise qu'on a eu l'occasion de visiter à Saint-Étienne lors de la Biennale de design, sur les espaces et sur des installations, donc université de création. En 2019, elle écrit un recueil de textes s'intitule « Je t'offrirai un jour le maître des climats ». Et puis, par la suite, un recueil de nouvelles qui s'appelle La cité d'Avel. Je vous conseille vraiment ces deux productions-là, ces deux textes-là qui sont absolument très, très, très beaux, extrêmement poétiques, enfin, une qualité d'écriture vraiment très intéressante qui tourne autour de l'air et du vent. La cité d'Avel, d'ailleurs, bénéficie de plusieurs récompenses et expositions. En 2020, Charlotte intègre le CIDRE, Cycle Design Recherche de la Cité du Design, en collaboration avec le Deep Design Lab de l'École urbaine de Lyon. Et en 2022, elle a une résidence création avec les ateliers Médicis. Et donc, elle a l'occasion là de travailler avec des enfants pour organiser le Carnaval du Vent, qu'on a eu l'occasion aussi de voir lors d'un colloque à Nancy sur la respiration. Voilà. Je vais pas tout dire, effectivement, il y a plusieurs expositions à Beaubourg et à Nancy et ailleurs. Moi, ce que j'ai retenu en tout cas de ce que fait Charlotte, c'est vraiment une très très grande poésie dans son travail, une capacité à articuler des éléments très matériels, très ancrés dans les météos, mais aussi dans les récits. Enfin, l'importance du récit, je crois, est tout à fait fondamentale dans ce qui est fait. Mais je laisse Charlotte en parler bien mieux que moi. Donc voilà.
Merci. En fait, on va parler de la cité d'Avel pour commencer, mais je voulais en introduction vous lire une partie du texte que j'ai envoyé à Marc pour ce séminaire, parce que ça va permettre aussi d'articuler avec ce qui va se passer après. On va aller à l'extérieur faire des captations avec des instruments de la cité d'Avel. Je vais vous lire. Donc, en premier, je voulais vous lire une citation d'Alexandre de Humboldt. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Donc, c'est la seconde enveloppe de notre planète, l'enveloppe extérieure, universelle et l'océan aérien, dont nous habitons les bas-fonds. Elle nous présente 6 classes de phénomènes, tous étroitement reliés par une dépendance mutuelle. Ces phénomènes dérivent de la constitution chimique de l'air, des variations qui surviennent dans sa diaphanité, dans sa coloration et dans la manière dont ils polarisent la lumière. Ils naissent des changements de densité ou de pression, de température, d'humidité et de tension électrique. Donc ça, c'est une citation que j'affectionne beaucoup parce que en étudiant le vent, on se rend compte que le vent, c'est quand même quelque chose qui fait partie d'un tout et qui est générateur de beaucoup de choses et générateur de tous les autres éléments météorologiques. Et de comprendre aussi ce qu'il y a au-dessus de nous, toute cette invisibilité, ça a été une démarche assez importante dans mon travail. Et voilà, donc c'est l'introduction à ce texte. Donc ce texte, il s'appelle « Magie blanche ou physique amusante » en référence à une exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Confluences. C'est une exposition qui s'appelle « Magique ». Donc je vous conseille d'aller la voir, elle est intéressante. dans l'histoire de la magie et l'histoire du surnaturel, en fait, la science, elle a eu un impact. La science s'est servie de tous ces dispositifs magiques pour se promouvoir, pour permettre qu'on la connaisse. Du coup, je voulais reprendre ce titre. Les images surgissant à la simple évocation du vent sont variées. Chacun éprouve sa présence. Parfois, il crie, rugit, hurle. Il est avant tout bruit et vacarme. Parfois, il gémit. Il semble gémir. Il se plaint. Son énergie suscite l'effroi. Le vent assaille, brutalise, fouette, renverse, déracine. C'est pourquoi on l'identifie souvent à la colère. En outre, il apporte, transporte, disperse dans sa fuite. Mais comprendre ce dernier implique dans un premier temps la connaissance de ce qu'il transporte, l'air et sa composition. L'air est un fluide gazeux qui forme l'atmosphère terrestre et que nous respirons. C'est un air commun, un air vital, comme l'écrivait Joseph Priestley en 1772. Dès les débuts des découvertes météorologiques, l'air devient vent lorsque sa vitesse atteint 1,5 mètre par seconde. Hippocrate considère le vent comme un des agents les plus puissants du monde et générateur de tous les effets constatables. Le vent est un flux, un courant d'air. Lors donc que l'air accumule est devenu un courant violent, les arbres tombent, déracinés par l'impétuosité du souffle. La mer se soulève et des navires d'une grosseur démesurée sont lancés en haut. Telle est la puissance que cela il possède. Invisible à la vérité pour l'œil, il est visible à la pensée, car sans lui, quel effet se produirait ? Donc, c'est assez vieux, Hippocrate, c'est pas des ressources actuelles, mais ce que je voulais souligner par là aussi, c'est le fait que on a découvert assez rapidement que ce qui était au-dessus de nos têtes, c'était pas quelque chose d'inerte, et que ça avait un vrai impact sur notre vie actuelle et dans notre société, en tout cas occidentale, on a tendance à l'oublier que le vent, en fait, il abolit les frontières, il se cantonne pas aux frontières politiques. Et ce que je dis souvent, c'est comme on nous avait dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières de la France, mais en fait, ça, c'est impossible, et c'est souvent ce que les bulletins de météo veulent nous faire croire, avec vraiment le fait qu'on ait les frontières politiques et qu'on soit un zoom seulement sur un pays. Et ça, je trouve ça problématique parce que, en fait, c'est aussi national et qu'on veut montrer la météo ou régionale. Mais. Du coup, c'est de ne pas montrer ce qu'est le vent vraiment. Donc le vent, en fait, on retrouve du sable du Sahara au Canada, et c'est ce qui nous lie aussi entre nous et ce qui doit nous permettre de ne pas faire pays, mais ensemble. Un peu naïf ce que je dis, mais voilà. Je vais continuer un petit peu et après je parlerai des capteurs. Le vent n'est que pur mouvement. C'est un état de mouvement. Cet état de mouvement le caractérise en toutes circonstances. Et lorsque le souffle est décrit, il prend le dessus sur la matière qui le compose. Toute la psychologie de l'air et de la respiration est construite autour de deux mouvements résumant la vie sur Terre. Donc c'est pour le philosophe Gaston Bachelard. Monter et descendre. L'action de respirer chez l'homme reviendrait à monter et descendre en soi-même. Dans le cadre de nos thérapies, apprendre à respirer permettrait de se libérer et de se rendre aérien pour contribuer à notre bonne santé psychique et physique. À partir de ses connaissances sur l'air, Gaston Bachelard crée une psychologie de la respiration. Donc il dit « L'élément aérien dans la pensée alchimique n'est nullement un élément évasif, inconsistant, superfétatoire. Il matérialise des forces cachées, des forces invisibles, d'autant plus solides qu'elles sont invisibles. En tant que souffle, il est inscrit dans la nature humaine. Il a une valeur anthropologique. Et comme les valeurs anthropologiques fondamentales ne sont pas effacées par les valeurs scientifiques, nous pouvons être sûrs de ne pas de nos points égarés si nous essayons de caractériser une poétique de l'élément aérien. Donc ce que j'aime bien dans les écrits de Gaston Blachelard, c'est qu'il parle du corps comme une harpe éolienne. Et c'est vrai que on va le voir durant l'atelier, mais c'est le fait de reprendre conscience que ce qu'on respire, c'est de l'air et que l'air s'altère. Donc la composition, elle s'altère par les molécules qui s'assemblent, des atomes qui s'assemblent. Et je trouve qu'il en parle de manière très poétique, sans parler de ce que je viens de vous dire scientifiquement. Et voilà, je trouve que c'est un philosophe que j'apprécie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que je vous disais sur les cartes météorologiques, donc je vais faire un point là-dessus. Au début du 19e siècle, apparaissent sous la forme de cartes météorologiques les premières représentations de l'état de l'atmosphère. Ces données sur le temps sont récoltées par les corps des marins. L'anémomètre utilisé était le corps du marin et non un instrument. En effet, les données recueillies avaient été récoltées par des officiers de timonerie de Brault, que Brault considérait comme des meilleurs anémomètres. Donc ça, c'est une anecdote assez folle que je trouve bien. C'est qu'avant, en fait, c'était vraiment des hommes et des humains, souvent des hommes, malheureusement, qui prenaient des mesures. Et avec ça, en fait, on créait les premières cartes de l'état de l'atmosphère. Donc c'est souvent pour naviguer. Et ce qui nous a permis de connaître un petit peu les grandes tendances, en fait, des vents, des masses d'air, et voilà. Donc ces cartes statistiques des vents jouissaient d'un grand succès dans le milieu scientifique. Mais les inventions technoscientifiques, telles que le thermomètre et le baromètre, ont bouleversé les données récoltées. La météo n'est plus une mesure de manière directe, mais via des récepteurs, des émetteurs, des câbles et des enregistreurs. D'une certaine façon, il se développe en s'opposant à la subjectivité des corps humains, comme l'extension de nos organes sensoriels. En matérialisant et visualisant des phénomènes précédemment insaisissables par le corps humain. La science a mondialisé sa propre définition de l'objectivité, s'opposant à la subjectivité de l'être humain, à la sensibilité des organismes qui peuplent la Terre. Isabelle Stengers, via la pensée d'Alfred Whitehead, dit « L'institution qu'on appelle la science fait aujourd'hui systématiquement bifurquer tout ce qu'elle touche, au sens où elle oppose partout objectivité des faits à la subjectivité des opinions. Donc avec un peu d'ironie, nous pourrons dire qu'il est prouvé scientifiquement que la météo objective doit se vivre à travers nos modes d'abstraction, nos écrans, nos outils de mesure. Le temps aujourd'hui, une pratique d'écran. Des phénomènes complexes comme la température, les précipitations ou la vitesse, la direction du vent sont traduits en codes standardisés. De ce fait, partageables. Pour être réinterprétés, représentés en couleurs, symboles ou diagrammes. Les abstractions permettent d'appréhender la Terre en tant que système complexe et interdépendant. Cela suggère aussi une planète simplifiée, un modèle en 4D, calculable, prévisible, contrôlable. Elle exprime via une image en alerte rouge, désormais normalisée, stérilisée à cause de sa réactualisation permanente. Donc ça a été écrit par Simone Fillinger, qui est ma directrice de recherche à la Cité du Design. Ça a été suite à une visite de Météo France qu'on a faite en juin 2021, où en fait on essaye de créer un partenariat durable entre la Cité du Design et Météo France pour permettre justement de déplacer cette manière de vivre la météo, de vivre le bulletin météo, quelque chose de, comme elle le dit très bien, de très standardisé, par quelque chose qu'on vit plus dans la vie de tous les jours. Et, par exemple, la petite anecdote que j'aime dire, c'est on pourrait reconnaître ce qui va se passer dans l'heure à venir avec les nuages, avec la forme des nuages, avec la hauteur de ceci. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu cette sensibilité à ce qui nous ce qui nous entoure. Et la vraie envie de Météo France, c'est de changer cette façon de penser les bulletins météo de manière déterministe avec une température et c'est la température qui va faire exactement et d'aller vers quelque chose de plus subjectif, en tout cas avec des intervalles de température, de mesure et de faire comprendre que c'est une science qui prédit l'avenir grâce au maillage des instruments sur les territoires, mais que ça reste quelque chose qui est en prédiction. Donc c'est des données qui sont réinterprétées et recalculées pour donner l'estimation la plus probable. Donc ça reste la probabilité. Et ça, c'est une vraie envie de Météo France. Et ce que je trouve intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils appellent des métiers de la création pour permettre de faire comprendre leur métier et de faire comprendre que non, la météo ne se trompe pas. Ça reste des probabilités. Donc voilà. Donc pour le texte, j'ai terminé, mais je pense qu'il sera disponible sur un drive. Voilà. Donc il est plus long que ça et je parle aussi de l'objectivité mécanique. Et voilà. Donc ça, c'était la partie beaucoup plus théorique. Et là, maintenant, on va rentrer dans une fiction. Donc je vais vous demander de ne pas forcément vous raccrocher au réel. Donc comme Jean-Paul l'a dit, j'ai travaillé sur la cité d'Avel avec une résidence des ateliers Médicis. Donc les ateliers Médicis, c'est un lieu qui permet aux artistes, aux designers d'aller dans des écoles sur tout le territoire français. Et moi, j'ai été à Langourla, dans les Côtes d'Armor. Donc c'est le centre Bretagne. Et donc j'ai eu pendant 6 mois des interventions artistiques avec des enfants de CM1, CM2, donc ils étaient 24. Donc je leur ai proposé la cité d'Avel. Donc je vais vous lire une petite partie. Donc bienvenue à la cité d'Avel. Donc pour la petite anecdote, Avel ça veut dire vent en breton. En regardant l'une des cartes d'Avel, nous pouvons distinguer 4 provinces. La première est le quartier de Nornade, avec son restaurant Tornado Resto. Il abrite des restaurateurs et restauratrices de la ville. Le restaurant est entouré de nombreux champs agricoles, car les habitants y produisent eux-mêmes leurs aliments. Puis on reconnaît le quartier de Vemble d'Est et Vemble d'Ouest, qui se dénètent des autres quartiers, car les habitants ont créé une muraille transparente pour se protéger des tempêtes de sable. On remarque leur goût pour l'architecture moderne, avec ce phare qui surplombe le quartier. À l'est de la cité d'Avel, on voit l'île d'Avant-Fleur. C'est une petite île peuplée d'une biodiversité débordante, insectes à foison, animaux marins aux abords du rivage, arbres fruitiers et fleurs sauvages. En harmonie avec cette nature vivante, ses habitants ne piétinent jamais le sol. Ils les survolent grâce à leurs ailes. Le dernier quartier, le plus vaste d'Avel, est habité par les busquets. Les réseaux de ventilation et de turbines bloquent l'accès en ligne droite à l'aéroport, à la centrale électrique et à l'école de météorologie. Toutes les rues se recroisent pour former des zigzags interminables et le plus souvent, les voyageurs et voyageuses ne tombent que par miracle sur les lieux touristiques. Alors, les habitants ont décidé de fabriquer des bus aérodynamiques à la particularité d'être toujours à l'heure. Donc là, je vais vous présenter plus spécifiquement les quartiers et j'ai que 2 cartes. Donc il y en a une qui est ici, je peux vous la faire tourner. Et il y en a une qui est ici, je vais la mettre par là. Donc ça, c'est la carte qu'on a réalisée avec les enfants. Donc je vais commencer par le quartier Nornade. Donc le quartier Nornade est peuplé de 6 habitants. Il y a Madame Souris. Je suis un peu malade, désolée. Magnolia. Elles sont toutes les 2 serveuses à plein temps au Tornado Resto. J'y ai rencontré Miss Queen, la chef cuisto, et Félix, son commis de cuisine. Ils m'ont servi un étonnant archiventier. Ces pommes de terre soufflées me donnaient le goût du vent. le goût du vent d'OTAN, pardon. Après ce délicieux repas à seulement 9 ventolars, j'ai visité les vastes étendues des champs de Nino. Elle fournit, saison après saison, les légumes, les fruits aux Nornadiens et Nornadiennes. À 19h pétante, la mélodie enivrante du camion de glace de Ninjax m'a appâtée. Sa fameuse glace aux 1000 boules m'a comblée de bonheur. La nuit tombée, à vent bleu d'ouest, lanterne du phare de Kakashi éclaire tous les quartiers d'Avel, même vent bleu d'est, le quartier où les tempêtes de sable font rage. Là-bas, des manges récoltent le sable qui est utilisé pour construire les édifices d'Avel. Plus souvent, appelés les Vernavel. Donc, vous avez un petit aperçu des Vernavel, donc toutes les architectures de la cité d'Avel sur la carte. Et aussi juste devant les petites fiches jaunes, donc vous pouvez vous déplacer aussi pour aller les voir, sont ce qu'on a créé avec les enfants. Et quand vous retournez la carte aussi, il y a les architectures en 3D. Ces tonnes de sable sont acheminées par bateau dans les différents quartiers d'Avel, grâce à l'agent maritime Michel. Le bâtiment le plus marquant est la Lunacol. Poppy y pratique la religion de la relune. Pendant la visite, j'ai eu l'occasion de goûter le pain du boulanger de Vambles, Robert. À la fin de la journée, Ange m'a appris à construire des murailles pour protéger Vambles d'Ouest des tempêtes de sable. L'île d'Avant-Fleur et les Busquets. Sur l'île d'Avant-Fleur, il y a six défenseurs et défenseuses de la faune et de la flore. Du haut de son observatoire, Lynn connaît l'île comme sa poche. Elle y voit souvent Spindertwax ouvrant toutes les portes d'Avel. Soleil s'occupe du bâtiment des animaux marins. J'ai entendu dire qu'elle parlait la langue des dauphins et des baleines. Slenderman est très soucieux des animaux en voie d'extinction. Il est le gardien de la réserve naturelle de l'île. Et la dernière, Isanoen, aime tout ce qui grouille. Alors elle passe son temps à fabriquer des maisons à insectes. La communauté adore les transports en commun. Vous avez besoin du moindre renseignement sur les trains ? Demandez à Leila. Elle est toujours à l'accueil d'une des gares. Le plus souvent, elle travaille avec Scream, le conducteur de la ligne de TGB reliant la gare des Busquets à la gare de Vambles d'Ouest. Je vais continuer à raconter l'histoire, mais vous pouvez vous déplacer et regarder tous les documents. Donc la communauté adore les transports en commun. Vous avez besoin du moindre renseignement sur les trains ? Demandez à Leila. Elle est toujours à l'accueil d'une des gares. Le plus souvent, elle travaille avec Scream, le conducteur de la ligne de TGB reliant la gare des Busquets à la gare de Vambles d'Ouest. Patate Manche répare et conduit le bus aérodynamique du quartier. Il amène les touristes jusqu'au quartier Nornade. Je lui dis merci pour la ponctualité. Grâce à lui, j'étais pile à l'heure à l'aéroport. Bouli attend la confirmation de décoller de la météorologue Ambre. J'entends au loin que notre vol sera sans perturbation. Paré au décollage. Donc ça, c'est les textes qu'on a écrits avec les 24 enfants de l'Angourla. Et je vais continuer par un petit documentaire, enfin un petit qui dure 20 minutes, et qui présente la restitution qu'on a fait de ce projet. Donc c'était un spectacle de mime avec tous les objets de la cité d'Avel.
La cité d'Avel n'est non pas une ville, mais plusieurs, d'égale importance, presque toutes semblables, dispersés dans des endroits où le vent fait partie du quotidien. À ce jour, une selle est habitée, les autres sont vides. Celle habitée a éclos en janvier dernier dans la cour de récréation des élèves de l'école primaire de l'Angourla. Pour la voir, voici quelques conseils à viser. Positionnez-vous face à la Seine, nez au vent, relevez le menton et respirez profondément pendant 10 secondes. Petit à petit, la cité d'Avel se manifestera entre les nuages, volant au-dessus de vos têtes.
Lui, il s'appelle John Patati. Depuis février, je viens plusieurs fois. Je suis venue plusieurs fois. Je suis bienvenue dans la classe.
pour faire l'histoire de la cité d'Avel. Donc c'est la cité d'Avel, c'est une ville qui est à éclos au-dessus de la cour de récréation de votre école. Et c'est une ville invisible et on peut la voir car tous les élèves de CM la voient parce que on a créé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc c'est une ville qui est faite par et pour le vent, où il y a beaucoup de tempêtes de sable. Donc là, le 23 juin, donc c'est jeudi, à 18h30, on fait un spectacle sur la cité d'Avel. Donc vous êtes les bienvenus, c'est à la salle des fêtes. Donc si vous voulez venir, vous pouvez venir avec vos parents.
Je me déplace à Nordal avec mon camion rempli de mille saveurs. Je livre mes fameux parfums au temps de resto, tous les premiers du monde et du mois. Je sers vos musiques, elles avaient beaucoup de succès. À Nordal, nous accordons une grande importance à l'alimentation des agriculteurs. D'ailleurs, je connais bien une l'agricultrice qui nous explique tous les ingrédients pour nos petites terres.
C'est Mio, je suis agricultrice, grâce à moi, tout le monde mange à sa faim à la cité d'Avel.
Les petites
toi, t'es la seule qui entend parler.
Tu dégoûtes.
Tu vas faire ça avec les autres ? Ok. Ça, tu te rappelles, t'es dans l'eau.
Oui, je
vas-y. On prend ça.
En fait, j'ai créé des petits pochoirs, il y en a différents, comme ça, où ça a permis... En fait, quand tu donnes aux enfants une feuille et dessine ce que tu veux, bah, ils sont un peu perdus. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai envie qu'ils se raccrochent au réel, mais qu'il y ait une grosse part d'imaginaire. Donc en fait, ils ont vu, à partir de ces formes-là, créer des objets. Donc par exemple, il y a le nardosoir, qui est un arrosoir de Nornad. Donc le nardosoir, ouais, c'est l'arrosoir de Nornad. Et ils ont dû créer à partir de ces formes-là. Il y a le talkevent, qui est le talkie-walkie de Laila dans Vamble, qui est l'agente de gare. Et à partir de ça, après, j'ai refait des objets toutes ces formes-là que j'ai découpées à la laser pour le spectacle.
On fait faire chaque lettre, on fait bien ça. Et après, on repart de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas là, vous partez du centre avec. Ok ? On se concentre, on ne parle plus.
Donc, quelques conseils à vous donner. Positionnez-vous, face à la scène.
Moi, j'ouvre le rideau à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un veut faire les conseils à viser ? C'est-à-dire, on se positionne face à la scène, on ferme les yeux, on lève le menton et on respire profondément. Est-ce que quelqu'un veut mimer ça ?
Vous voyez, donc on va le faire.
Oui, de quoi ?
Mais quoi ?
Je montre comment je fais. Je vois si quelqu'un va me faire.
Ici, vous me trouvez 4 minutes de bus, plus une mobilité et une mobilité.
ramène chez moi dans son avion ultra solide.
Bon voyage d'abord.
Pyramide.
La
pyramide.
Oui.
Et on passe au busquet.
Okay. Oui.
Tu nous présentes, Alina.
On a fait des tickets de transport. C'est celui de bus. Celui-là. Le moyen, c'est celui de train.
Okay. Je dis non parce que.
Et le grand,
c'est
celui d'avion.
Est-ce que vous avez commencé?
d'Avel n'est non pas une ville, mais plusieurs, d'égale importance, presque toutes semblables, dispersées dans des endroits où le vent fait partie du quotidien. À ce jour, une seule est habitée, les autres sont vides. Celle habitée a éclos en janvier dernier dans la cour de récréation des élèves de l'école primaire de Mangoula. Pour la voir, voici quelques conseils à viser.
Est de la cité d'Avel. Malgré la petite superficie de l'île d'Avonfleur, il y a une biodiversité débordante. Entre l'île d'Avonfleur et l'île d'Est, l'eau est chaude, avec un courant marin venant du sud. On y voit souvent des dauphins, fais attention à eux parce qu'ils viennent d'avoir une partie.
Nous sommes les défenseurs de la biodiversité.
Les habitants de Vannes se nomment les Vendelaises et les Vendelais.
Notre quartier Vendes est spécial car il y a Vendes d'Est et Vendes d'Ouest.
La mission des Vendelais est agence maritime. On vous reconnaît grâce à mon chapeau de marin. Nous nous rencontrons à l'heure.
Je m'appelle Ange, je suis chef de la ventilation. Grâce à moi, les récents dans notre quartier.
Notre rôle à Avel est d'assurer les transports en commun. Ici, vous pouvez...
La ligne de TGV relie la gare de Busquets à la gare de Vendes d'Est. Le trajet dure 1h45.
Le TGV numéro 8625
offre une trace unique.
Bon voyage à bord.
À bientôt dans la cité d'Avel.
Et je pense qu'ils séparaient énormément.
Ouais.
Par exemple, quand ils jouent en récré et qu'ils font du sport et qu'ils bougent, ils se rendent pas compte que ça, déjà, ça peut être des gestes, c'est déjà se mettre le corps en mouvement au quotidien. Et du coup, le but, ça a un peu été de partir de ça, partir des jeux, partir du sport pour aller vers des choses plus de l'ordre de la performance et qu'ils se rendent pas compte qu'on rentre... pour la performance.
Ouais. Non, je pense que c'est bien, vraiment. C'était une très belle expérience. Mmh. Je suis contente et j'espère qu'en fait, le projet, il restera pas... Enfin, ça se termine pas aujourd'hui, quoi. Il va continuer. C'était un projet que j'ai fait il y a 3 ans et que j'ai continué et je pense qu'il continuera encore. Et une ville a éclos, la cité d'Avel a éclos ici, mais elle pourrait éclore... autre part.
Dans d'autres espaces.
Ouais. Où le vent est important. Mmh. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je me rendais compte que dans leur quotidien, dans la vie en dehors de l'école, le vent, il joue un impact important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont fils d'agriculteurs, qui restent beaucoup dehors. Donc c'est des plaines où il y a rien. Où le vent, du coup, il peut être assez puissant. Et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que... Par exemple, on a parlé beaucoup du sujet des pesticides. Et en fait, ils ont l'impression que c'est un sujet qui ne les concerne pas forcément parce qu'ils ne sont pas agriculteurs. Mais typiquement, s'ils habitent à côté de chez un agriculteur, bah, le vent va balayer des produits et ça va arriver sur eux et tout ça. Et en même temps, il y avait aussi ce truc de... Il n'y avait pas que le négatif, il y avait aussi que le vent, ça permet de disperser les polluants, de pouvoir avoir une air plus saine. Donc tout ça, je pense qu'ils l'ont appris. Comment la planète se réchauffait de manière inégale parce que le soleil est plus ou moins proche et tout ça. Et comment l'effet du réchauffement climatique, comment ça se passe, pourquoi il y a le réchauffement climatique. Et enfin, vraiment les aspects scientifiques, comment ça fonctionne, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent pourquoi ça fonctionne. On sait qu'il y a la fonte des glaces, mais on ne sait pas pourquoi exactement il y a la fonte des glaces, quoi. Et du coup, bah, c'était intéressant de leur expliquer. Et à ce moment-là, en fait, je les ai mis en mouvement. Je leur ai fait comment l'air chaud et l'air froid étaient attirés. Et du coup, on a fait des groupes d'air chaud et des groupes d'air froid pour qu'ils se... Ah, voilà. Ouais. Ouais.
Il y a un câlin. Ouais, c'est ceux qui veulent. Faire un câlin. Pour dire au revoir à Charlotte et Laura.
Bon, il y en a qui ne veulent pas du tout. Bon, à bientôt.
Oui, à bientôt.
Profitez bien de l'été, profitez bien de votre voyage scolaire. Bravo. Et bravo, on s'applaudit.
Bravo à tous et à toutes.
On a dit au revoir.
Oh non.
Ouais, au revoir. Quand même.
Toi, tu restes ici ou tu pars au...
En CM.
Moi, je pars en 6e.
Ouais. Okay. Toi aussi. À bientôt dans la cité d'Avel. Donc ce film, il a été réalisé par Jimmy Le Bigot et Romain Fravallo, qui m'ont suivi pendant une semaine pendant la résidence. Et sur le moment où j'avais invité Laura Ego, c'est une performeuse qui nous a permis du coup de réaliser ce spectacle de mime. Donc le but de ce documentaire, c'était pas tant de filmer ce qui s'est passé pendant le final, mais de plus les coulisses et de voir l'effervescence que ça pouvait créer chez eux. Et je voulais faire un petit point aussi sur les ateliers Médicis. En fait, si j'ai été sélectionnée et mise dans cette école, et l'école aussi a été sélectionnée, c'est parce que c'est des écoles où la part de culture est assez inexistante et où ils sont assez isolés. Donc là, c'est centre Bretagne, donc c'est vraiment un milieu rural très isolé. Et du coup, ils ont très peu de connaissances de l'art en général. Et de les avoir amenés dans un projet artistique par la science et par la compréhension de ce qu'ils pouvaient vivre dans leur quotidien, c'était intéressant. Et puis, maintenant, j'ai des notions de maîtresse. Hein. Je pourrais peut-être faire ça plus tard. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé de vous montrer ça parce que l'atelier qu'on va faire, je voudrais qu'il s'implante un petit peu dans les mêmes imaginaires que la cité d'Avel. Donc, je vous ai mis à disposition des objets. Je pensais qu'on était beaucoup moins. On m'avait dit qu'on serait moins. Donc du coup, il n'y en a que 5. Mais on va faire des équipes de 4 où on va aller à l'extérieur faire des captations de ces éléments. Alors, ce n'est pas des capteurs électroniques, mais c'est des capteurs sensibles. Et j'ai fait des petites fiches où on va pouvoir faire des mesures, autant des mesures d'observation que... De la vitesse du vent, de l'heure et la date à laquelle on va le prendre, de la végétation environnante. Et donc de chaque objet, l'idée c'est que chaque équipe puisse se faire tourner les objets. Donc ce que je souhaiterais, c'est qu'on se cantonne peut-être pas autour du bâtiment, mais qu'on puisse y aller un peu se promener. Je sais qu'il fait froid, mais voilà. Donc je peux vous présenter... Enfin, je préfère même pas vous présenter les objets, j'aimerais que vous les utilisiez par vous-même. Et qu'après, on se fera un petit débrief avec les fiches remplies de ce que vous avez pensé et ressenti. L'idée, c'est pas de... On va pas avoir une captation avec des données précises, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de, que ce soit le corps et là, l'objet, la prolongation du corps qui permettent de récolter des données qui sont totalement subjectives. Voilà. Vous avez compris, il y a des questions ? Bah, il vaut mieux s'habiller. Il y a des choses qui se portent sur la tête, des choses qui se regardent à travers, des choses qui permettent que ça s'attrape. Je me suis fort inspirée du parc des instruments de Météo France à Toulouse. Et le but, c'est de voilà, rien n'est électronique, donc c'est à vous de vous en servir. Voilà.
Et là-dessus, il a...
Oui. Alors, j'ai oublié de mettre un axe. Donc ça, c'est un petit... Donc j'ai repris un petit peu ce qui se faisait à l'époque pour mesurer les données, des phénomènes. Donc cet axe-là, c'est la vitesse. Donc j'ai mis...
L'axe vertical,
c'est la vitesse. Ouais, en rouge, ouais. Et puis vous allez voir, le reste, il y a des noms. Il y a des noms sur le dessus, où je peux faire passer pour que vous regardiez. Ouais, donc il y a des noms dessus, donc il y a le nom attraper, orienter, voir, ressentir et suspendre. Donc ça, c'est le nom des objets. Mais peut-être j'aimerais vraiment que en avoir votre avis aussi de savoir quel objet correspond à quoi. C'est moi qui les ai faits, donc je le sais, mais voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de former des équipes de 4 et puis remplir ces fiches-là. Donc je serai là, évidemment, je suis avec vous, mais le but, c'est que chaque équipe ait par explorer les contours d'ici. Voilà. Vous avez des questions ?
Le symbole,
c'est trop de... Ouais, voilà, c'est pour ça que je te demande s'il y a des questions. En fait, ça, c'est un... Récemment, j'ai illustré un article de Simone Fillinger, donc, qui est ma directrice de DSRD, et qui a participé au colloque sur la respiration à Nancy, qui a eu lieu en octobre, septembre dernier, début septembre. Et elle m'a proposé d'illustrer un article qui est fait sur la composition de l'air. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux molécules et aux atomes et de comment ils étaient formés. Donc ça, c'est la représentation. Donc la première, c'est le diazote. Donc le pourcentage de ce qu'il y a dans l'atmosphère. La deuxième, c'est le dioxygène. Donc je peux dire, le diazote, c'est... deux atomes d'azote, donc qui créent la molécule de diazote. La deuxième, c'est le dioxygène, donc c'est deux atomes d'oxygène qui créent la molécule de dioxygène. Et la dernière, qu'on voit un petit peu dans l'air, c'est l'argon. Donc l'argon, c'est un gaz noble, donc qui ne fait pas de lien, qui reste un atome et qui ne devient pas une molécule. Donc j'en ai mis que trois, évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais là, je voulais vous faire un petit aperçu parce que on va aller dans ça, dans ce qu'il y a dans des atomes et des molécules, quoi. On est entouré de ça et on est ça. On est des atomes et des molécules. Donc voilà, c'était pour ça les petites illustrations. Il y a d'autres questions ? Ouais, exactement. Et être aussi à l'écoute et au regard de ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai que les parcs à instruments sont très réglementés. C'est quelque chose qui est réglementé depuis très longtemps et qui permet à tous les centres météo du monde de s'échanger des données. Donc la pelouse doit être tondue à 1 cm, il ne doit rien y avoir autour. Donc là, c'est totalement différent. C'est pour ça que les parcs à instruments ne sont jamais dans les villes ou jamais dans des milieux urbains. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Et du coup, là, c'est ce qu'on va chercher, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent, donc beaucoup de choses qui altèrent le mouvement du vent, que ce soit un bâtiment, donc les effets des bâtiments. Mais bon, je crois qu'il y en a pas mal qui sont spécialistes là-dedans, ici. Je me souviens d'avoir parlé avec quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Ouais. Et ouais. Du coup, voilà, c'est d'être attentif à tout ça et de le noter et de percevoir l'atmosphère et l'air et le vent différemment.
Ça va faire résonance avec ce que Gwendoline m'a parlé cet après-midi,
ouais,
autour des microcapteurs et la qualité de l'air et comment les dispositifs en fait changent la sensibilité, changent les manières de prêter attention au milieu. Et c'est tout l'enjeu de cet exercice aussi, en fait. Ce jeu nous amène à regarder, à sentir, à s'immerger un petit peu différemment dans le milieu qu'on habite au quotidien.
Bah, je vous laisse prendre les objets qui vous inspirent le plus.